Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Vous êtes ici?
Oui.
Oui. Oui. Bonsoir et bienvenue, c'est Côté Club, votre magazine quotidien avec toute la scène française. 1h, 22h, 23h, on remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale, à podcaster, à télécharger. Vous vous débrouillez comme vous voulez, n'est-ce pas Marion Guilbeault?
Tout à fait.
Ce soir, nous sommes avec Mathieu Bablé et Dom Peter. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Mathieu Bablé, vous êtes le bassiste du groupe Zenzile, Dom Peter, le batteur de Hightone. En 2006, vos deux groupes emblématiques de la French Dub se sont associés pour enfanter Zentone, un projet collaboratif. 15 ans plus tard, Zentone, le retour pour Chapter 2. À vos côtés, Audrey Estrugo et Cut Killer. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Audrey Estrugo, vous signez Suprême et Cut Killer, la bande originale de ce film qui retrace les débuts de Joey Starr et Kool Shen du groupe NTM. Marion ?
C'est une des trop rares figures féminines du rap français. La carte blanche à Beaubourg, dans le cadre du festival Les Femmes Sans Mêle, Kazen nous dévoile ses invités vers 22h30.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et avant de parler NTM, on ouvre avec Orelsan. Est-ce que vous faites partie des 3 millions qui ont vu en seulement 2 jours son clip Jour Meilleur?
Oui, moi. Killer. Moi, ouais. Oui.
Oui, bien sûr, Orelsan, c'est votre boulot.
Je me suis,
Audrey aussi.
Je me suis vu sur son documentaire sur Amazon Prime.
Vous moi avez même, tout fait, quoi.
Ah ouais, bah tiens, j'étais là.
Et les garçons de Zenzile et de Hightone?
Non, désolé, non, voilà, pas vu.
Une autre école.
Mais vous
une
vivez dans école. Où vous étiez en prison ces 3 derniers jours?
Non, ils ont d'autres perspectives.
J'ai pas la 2G.
Voilà. Jour Meilleur, c'est le titre de Civilisation, 4e album pour Orelsan, qui signe 4 accords Hôtel Arena à Paris, complètement complet. Orelsan est bien le phénomène du moment. Tout de suite, Jour Meilleur.
Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. D'être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami. Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. rira quand on le verra sous un jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur.
Audrey Estrugo, réalisatrice, Cut Killer DJ, Mathieu Bablé, bassiste du groupe Zenzile, Dom Peter, le batteur du groupe Hightone, sont les invités de Côté Club ce soir pour deux actualités. D'un côté, Suprême, le film qui retrace les débuts de NTM, les tout premiers concerts jusqu'à leur zénith, sorti en salle demain. Et puis de l'autre, Zentone, Chapter 2, album commun à vos deux groupes, Zenzile et Hightone. D'un côté, le rap NTM début des années 90. De l'autre, la nouvelle scène dub de la fin des années 90. Il y a des ponts possibles.
Toujours, oui, on ne sait jamais, bien sûr, sur un entendu. En tout cas, dans les années 80, oui, il y avait ce pont, effectivement.
Ouais. Ouais, votre côté
90, je pense aussi en reggae, en reggae muffin. Je pense toute la scène parisienne nous a influencés.
On jouait avec Sai-Sai, partager la scène avec Sai-Sai et puis avec...
Poupa Leslie, Tonton David, c'est des trucs
D'accord, donc vous aviez quand même cette relation-là. La scène dub, pour vous, Cut Killer, vous connaissez un petit peu?
Oui. Nous, en fait, on a commencé...
Sur un malentendu?
Non, pas sur un malentendu. en tant que DJ. Parce que j'ai grandi, effectivement, avec cette musique, plus le reggae au départ, avec l'ambiance Bob Marley et tout ça, mais le dub est arrivé, effectivement, avec la scène française. Parce qu'on côtoyait effectivement du Poupa Leslie, Tonton David et Sai-Sai. En fait, tout le microcosme de l'époque, d'ailleurs pas si loin que ça, il y avait des soirées dub où on allait de temps en temps dans les années 80.
Pas si loin de ça à côté, dans le 16e arrondissement
Dans le 13e,
oui. Ah oui, c'est de l'autre côté de la Seine.
Oui,
dans le 16e.
Les dub actions.
Ouais.
Exactement.
Et pour vous, Audrey?
J'étais en train de me dire, est-ce que Massila Sound System, c'est
dub un peu? Bah ouais, voilà. Vous êtes dans le sujet.
C'est
autre chose, mais on assure quand même.
Je pense que c'est la culture sound system, quoi.
Ouais, il y a des
plus que dub, mais bref.
Amateur de biopic dans le milieu de la musique, pour Zenzile et pour Hightone.
Moi, je me suis fait le Wu-Tang, là, il n'y a pas longtemps.
Ah ouais? Et pour vous, Mathieu?
Moi, Control.
Dis-moi, Aline, c'est une autre histoire. Ah oui, c'est une autre chanson, c'est un biopic aussi d'une certaine façon. Pour vous, Cut Killer, vous aviez une culture comme ça de biopic dans le milieu de la musique?
Beaucoup, oui. De Ray en passant par même les James Brown qui dernièrement les Doors. En fait, en majeure partie, les biopics font partie intégrante de ma culture cinématographique aussi parce que je suis très cinéphile. Donc oui, forcément, dès qu'il y a un biopic qui retrace, le dernièrement respecte. Il y a plein de films qui sont où on raconte l'histoire d'une personne qu'on ne connaît pas forcément, ou alors qu'on connaît la musique mais pas son histoire. Donc oui, forcément, oui.
Mais souvent quand même les artistes... Oui Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose?
Le premier moi qui m'avait marqué, c'est Bird de Clint Eastwood sur Charlie Parker.
Oui, classique. Ouais.
Bien sûr. Et vous Audrey, qui signez ce biopic aujourd'hui, à la différence quand même qu'on est sur deux personnages vivants et bien vivants, et ça change la donne.
Ça change la donne parce qu'il y a quand même il y a deux choses. Il y a évidemment la pression... De confronter directement son travail aux personnes concernées, donc ça déjà c'est à ne pas négliger, c'est quand même assez présent. Et il y a aussi le fait qu'ils sont encore très 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 incarnés dans l'inconscient des gens, donc elle est là aussi la difficulté, donc ça réduit un peu la marge de manœuvre, mais en même temps moi ils ont 20 ans dans le film. Voilà, donc il y a quand même 30-35 ans d'écart entre mon histoire et la leur aujourd'hui. Ce qui m'a donné un peu plus de flexibilité par rapport au choix, par exemple, de mes comédiens, etc. Même si je suis quand même très cadrée. En même temps, c'est une époque où il y a moins d'images, etc., qui tournent. Donc ça reste un peu plus souple.
On va revenir sur le film tout de suite. Direction le cinéma Suprême, la bande-annonce.
Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque?
Faut arrêter de tout confondre, les gars. Nous, on fait du rap. On prend des micros, on prend pas des flingues.
Que peut-tu espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid avec une société qui détourne le regard?
La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu, blanc, rouge sur le cul histoire de faire gagner du temps à tout le monde.
Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nid de ta mère partout là? Je vois ce nom débile là partout sur les murs.
Joey Star.
Faut être intelligent pour faire de la musique. Je veux plus te voir.
Tu veux plus me voir, mais pour ça t'es mal barré, je te le dis.
C'est clair, t'as le toucher de ta mère.
Et tu vas m'entendre, et pas qu'un peu, et tu vas me voir aussi.
Quand j'ai mis si bien à tout moment l'insignifiant le concurrent.
Les violences verbales ne sont plus tolérables.
Quand t'es capable derrière, c'est clair.
Nique ta mère, le maire.
Nous mettons demain, quoi qu'il advienne, nous appartient.
Tu vois pas que t'es en train de tout niquer là?
La bande-annonce de Suprême qui sort demain en salle, Audrey Astrogo, c'est vous qui signez le film formidable, vraiment, sur les tout débuts de NTM. Cut Killer, vous, la bande originale. J'imagine que vous avez déjà montré le film à Saint-Denis, dans le 93. Comment ça s'est passé?
Ouais, le film est hyper bien accueilli, vraiment partout. Après, effectivement, quand on le présente en 93, le film dit quand même toutes les cinq répliques, Saint-Denis, Saint-Denis, 9-3, 9-3. Donc voilà, ça a une résonance particulière, mais... Moi, je suis hyper fière parce que j'ai grandi aussi dans le 93 et de voir qu'on est réceptionné comme on l'a voulu, c'est-à-dire vraiment d'avoir fait un film emblème sur un groupe emblématique.
Et pas que ça aussi, voilà. Hein, sur une histoire aussi de la politique qui
évidemment,
a été menée en France
sur les banlieues. Mais de voir que le message est passé et qu'il est justement interprété par son public, ça c'est cool.
Suprême est un film d'apprentissage et un réquisitoire sur l'abandon politique dont est victime historiquement la banlieue. On y voit l'ascension de deux gamins de Saint-Denis, donc Didier Morville, alias Joestar, et puis Bruno Lopez, alias Coulchen. Deux gamins qui viennent du grave, de la danse hip-hop et qui relèvent le défi de faire du rap du jour au lendemain. Sur un coup de tête. Un mot d'abord sur les deux jeunes acteurs qui, là aussi, ont relevé le défi de jouer les deux têtes brûlées, puis des types vivants, surtout. Théo Christine, que j'avais vu dans Garçon chiffon de Nicolas Maury, et puis Chandor Funtek, vu dans La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Ils sont absolument géniaux, presque un an de préparation. D'abord, est-ce qu'il y a eu des auditions, des scènes que vous leur avez fait passer pour les prendre?
Il y avait dans le casting, il fallait rapper, je crois. Ils avaient le choix sur plusieurs morceaux, mais du dernier album, l'album de 98, du plus récent en tout cas, donc pour qu'ils soient plus à l'aise. Et des scènes de textes que j'avais inventées, ouais, qui sont pas dans le scénario, mais même s'il y avait cet enjeu des concerts, puisqu'ils font des vrais lives.
C'est des prises, on est en
captation directe, il n'y a pas de playback, il n'y a pas non plus de post-synchro derrière, après coup. Il fallait quand même que c'était très compliqué à la fois, parce que du coup je me disais, est-ce que je cherche des rappeurs, est-ce que je cherche des comédiens, qu'est-ce que je fais, où je vais. J'ai un peu cherché dans tous les coins, tout ce qui était possible et inimaginable, mais je suis revenue à des comédiens, qui n'avaient aucun lien avec la scène, du tout. Ils n'étaient ni musiciens, ni rappeurs, ni rien. Mais parce que c'était les seuls qui étaient capables justement d'encaisser cette année de travail et de comprendre chaque étape de travail, la nécessité du boulot qui était vraiment nécessaire pour rentrer dans l'interprétation et l'incarnation des personnages.
Vous les avez coachés, Cut Killer? À quel moment vous intervenez, vous qui signez la bande originale?
Moi, j'interviens bien après. Non, j'ai vu effectivement la première fois en Belgique sur la tournée NTM, parce qu'ils étaient venus les voir et que Joey me les a présentés. Et je leur ai dit bon courage, parce qu'il y a du taf à faire.
Et
ouais, exactement. Et après, je les ai recroisés sur le tournage. Pas avant. Je savais que Didier et Bruno, donc Coulchen, Joestar, les avaient coachés avec notamment Touko, qui était, on va dire, l'assistant de Joey en scène. Mais je voulais pas rentrer dans ce cadre-là. C'était plutôt au protagoniste de le faire, plus qu'à moi.
Le film s'ouvre sur la parole de François Mitterrand pendant les émeutes de Vaux-en-Velin, un président qui a un discours terrible en fait, parce qu'en voulant expliquer la révolte des jeunes de banlieue, il pointe la laideur des lieux et donc dévalue totalement la vie des quartiers. C'est le point d'entrée de ce que vous vouliez raconter. Je vous pose cette question parce que votre premier film, à 23 ans, Audrey, Regarde-moi en 2008, avait déjà pour sujet la banlieue.
Tout à fait, mais... Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'y ai grandi, donc c'est chez moi en fait, c'est mon décor, c'est mon terrain de jeu, donc c'est un univers qui m'est ultra familier, donc c'est naturel pour moi d'aller écrire des histoires qui se passent là. J'ai même pour habitude de dire, si demain je dois faire un film qui se passe dans le 7e arrondissement, j'ai besoin de faire une étude de terrain avant d'y aller, parce que j'y connais rien. Donc voilà, c'est chez moi. Et
c'est ça qui a séduit aussi Coulchen et Joestar, parce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont tenté de se monter sur leur histoire. C'est le fait que vous veniez aussi de là et que vous aviez un propos très précis sur leur histoire.
Alors, pour être sincère, je pense que Didier a compris très récemment qu'en fait je vis à Marseille maintenant, mais que je suis pas née à Marseille et que c'est pas parce que je supporte l'OM que je vivais pas dans 93.
D'accord, voilà. Ok. Donc, c'est vrai que vous brouillez les pistes. Hein.
Ouais, c'est l'art de la contradiction, c'est ma spécialité. Non, mais en fait, ce qui les a séduits, c'était justement que j'avais pas envie de faire un film que sur eux et qu'il y avait tout ce propos politique et social derrière, et c'est ça qui leur a plu, parce que eux ne voyaient pas l'intérêt de faire un film uniquement sur leur histoire.
Et un biopic alors qu'ils étaient pas morts.
Exactement. Sachant qu'il y a aussi une série qui se prépare pour Arte et Netflix. Alors, le film raconte l'ascension de NTM, repéré par Sébastien Ferrand, qui à l'époque avait...
Farrand.
Qui avait, à l'époque avait 18-19 ans, quoi. C'est ce qu'on voit, qui lui vient des beaux quartiers. Il va les faire signer chez Sony. Il a assisté à leur premier concert, un truc dingue. Encore quelques jours plus tôt, il n'avait jamais rappé. On les voit tenter des trucs, improviser un texte qui deviendra, c'est clair.
Vois mes paroles et retiens-les bien car je les tiens. Enfin dans mes mains la solution pour guérir tes maux de tête, je t'envoie ma potion. C'est une potion anale, elle est fatale, elle fait mal, écarte donc ton trou de balle. Mon nom est Chêne, inventeur de la sodomie verbale. C'est clair, t'as le toucher de ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers. C'est clair, j'ai le toucher de ta mère, sur les côtés comme Badaïr. C'est clair, j'ai le toucher de ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers. Sur les côtés comme Badaïr. C'est clair, j'ai le toucher de ta mère.
Ça, c'était leur premier album, Authentique. Là, on entend les vrais dans le film. Non, on entend justement vos acteurs qui sont en train de performer. Cut Killer, vous signez la bande originale. Vous connaissiez, j'imagine, Joe Star et Kouchen auparavant.
Oui, complètement.
Bien entendu.
De nom quand on était jeune, parce qu'on traînait dans les mêmes soirées, au Globo, chez Roger Boitefunk.
Bah, vous avez commencé à mixer dans les années 80, fin des années 80.
Fin 80, eux, ils n'étaient pas encore rappeurs. Hein. Ils étaient graffeurs ou danseurs. Et on a suivi l'évolution grâce à l'émission de Dynasty où ils ont fait une apparition sur Radio Nova, et c'est là qu'on s'est dit, ah, il y a quelque chose, déjà un groupe qui arrive s'appelant Nique ta mère, déjà nous-mêmes on se sentait oppressés, disant, comment ça Nique ta mère, c'était déjà compliqué, mais ils ont réussi à nous montrer qu'effectivement, même s'ils n'avaient pas depuis longtemps, ils avaient la technique et les lyrics assez transcendants pour dire, bah, on peut être vos porte-parole. Nous on s'est dit, pourquoi pas? Mais ils ont sorti, c'est clair, authentique. On a dit, ok, c'est bon, validé.
Alors, pour cette bande originale, quelle était votre marge de manœuvre? Comment vous alliez vous repérer dans toute cette discographie? Des débuts, hein?
Des débuts.
Je te remercie, ça s'arrête au premier zénith. Sinon, alors là, on en avait pour 10 ans.
Dans un premier temps, il fallait refaire tous les instrumentaux des lives, concert, parce que des concerts, parce qu'ils n'existaient plus. Les bandes ont été perdues aussi bien chez Sony que chez les artistes. Donc, du coup, déjà, c'était le premier challenge avant le tournage. On en a parlé avec Audrey directement. Elle m'a dit, bah oui, si tu peux les faire. Moi, j'ai dit, bien sûr, c'est le premier challenge avant de faire le film. Et que ça soit carrément identique. Donc, du coup, on n'a pas l'impression qu'effectivement, ce sont des morceaux d'aujourd'hui.
Vous vous basiez sur quoi? Sur des souvenirs?
Je suis musicien.
Vous vouliez poser une question, ouais?
Oui, non, retrouver les samples.
Voilà. Nous, issus de cette génération, à l'écoute sur les premiers morceaux, on sait les grosses bases. Donc, du coup, ça va. Mais après, les plus minutieux, j'ai retrouvé des samples au Japon, j'ai retrouvé le saxophoniste de Boogeyman. D'ailleurs, qui a un thème
de
2000 de l'argent.
Ça sert à ça aussi, un film à remettre les compteurs à l'heure.
J'ai fait un travail minutieux pour essayer de... Et surtout, travailler avec les machines de l'époque, parce que je les avais encore.
Bien sûr, pour le son.
Ça, c'était déjà avant de faire le soundtrack du film. Et puis, là, c'est un commun accord avec Audrey. On avait une vision, elle a une vision bien précise. Et ce qui était très intéressant, c'est de marcher à l'introspection des personnages et non pas d'appuyer une émotion comme les Américains font très bien, c'est-à-dire accentuer une émotion. Là, c'était plus ce que ressentaient les personnages pour que le public se dise « Ah ouais, c'est dur ce qu'il vit ». Donc c'était plus comme ça, en fait.
Autre extrait, « Le monde de demain » sur leur premier album, « Authentique toujours ».
Qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord.
font assassiner.
Alors là encore, je signale aux auditeurs, c'est Authentique, l'album Authentique de NTM. Dans le film, on entend ce que vous avez mis en place, mm-hmm. et puis on entend les acteurs. Vous connaissez bien sûr ce titre, Mathieu, je vous ai vu identifier les premières mesures.
Moi, c'est une super claque, quoi. C'est le premier titre qui m'a amené sur NTM, et qui était d'ailleurs à l'époque doté d'un clip fantastique,
ouais.
Voilà, qui passait sur M6, je crois, à l'époque.
Audrey, comment fallait-il travailler ? Parce que là, on les voit, c'est au moment où ils sont en studio, c'est leur premier enregistrement. On y voit Joey Starr mal à l'aise rythmiquement, Cool Chain très pédagogue, deux amis, deux visions de leur destin. Cool Chain veut absolument saisir sa chance. Joey Starr lui manque souvent de faire absolument tout foirer, une sorte de manque d'assurance. C'est tout ce qui se joue dans ce premier enregistrement, en fait.
Exactement. Moi, je trouve que cette scène, elle les résume eux deux. C'est pour moi, c'est le si le film devait avoir un poumon, il est là, parce que voilà, comme j'ai pu dire à Didier, en fait, le Babtou fragile, c'est toi.
Exactement. Et le repère, au sens presque lacanien du terme, c'est Cool Chain.
C'est Cool Chain. Ouais.
Joey n'a jamais aimé les studios. Ni les studios, ni faire les clips, ni faire la promo. Lui, ce qu'il aime, c'est la scène. Et ça résume effectivement très bien NTM, parce que du Monde de Demain jusqu'au dernier album de NTM, ça a toujours été constant. Joey, il n'aime pas le studio, il n'aime pas la promo, il n'aime que la scène.
Alors, le tour de force, justement, mais ce sont les scènes de concert. Comment vous avez placé vos caméras pour être au milieu véritablement de l'action et puis saisir toute l'énergie, donc en live, puisque les scènes de concert ne sont pas que du cinéma.
Et puis je tiens à préciser qu'une journée de tournage, c'est 8 heures. C'est 8 heures.
Oui.
Donc en fait, ils ont fait le même morceau pendant 8 heures. Donc c'est une performance qui est bien plus... En fait, c'est comparé à un concert, on parle de 4 fois plus de temps sur scène, avec une intensité égale, etc. Et en gros, je savais que chaque prise, on fait le morceau en entier à chaque prise. Donc chaque prise est unique. Il y avait un saut dans le vide qu'on continue, parce que de toute façon, ils sont là, ils vivent le truc, ils sont avec le public. On coupe, la prise d'après, il y aura forcément des choses différentes, et c'est ça qui est génial. Mais ils ont fait ça pendant 8 heures. Donc déjà, ils sont quand même entraînés de fou pour arriver à ça. Parce que la débauche d'énergie est vraiment incroyable. Et moi, avec ma caméra, j'avais 5 concerts pour raconter l'évolution d'un groupe, la progression d'un groupe. Comment un groupe qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur un coup de tête, se retrouve sur scène. Donc le premier concert, on est propulsé comme ça au milieu de la scène, caméra à l'épaule. Ça va dans tous les sens, à 360. Il y a cette énergie comme ça, mais parce qu'en fait...
brutal,
c'est,
sauvage.
Ouais, c'est très organique comme ça, mais parce que c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Et on est avec eux dans l'œil du cyclone. Et puis petit à petit... le groupe se met en place, il y a une formation, ils deviennent 8, il y a des danseurs, des backers, etc. Pour arriver à un concert très, très... le dernier, c'est le dernier avant le Zénith. Il y a des jeux de lumière, c'est très mis en scène. Et ma caméra suit cette évolution, puisqu'à la fin, on est dans un langage de captation très extérieur, etc., beaucoup plus classique, pour raconter vraiment cette professionnalisation du groupe.
Est-ce que ça veut dire que vous avez tourné les concerts dans un ordre chronologique, justement, pour mettre en place cette dramaturgie ?
Pas du tout. Pas du tout. Le premier concert qu'on a tourné, c'est le dernier. Et le vomi est un vrai vomi, par exemple, parce qu'il y avait vraiment cette émotion, ce stress de se dire, mais est-ce que tout ce travail qu'on a fait pendant un an, ça se trouve, on va être tellement ridicule. Donc les comédiens étaient hyper stressés. Et tu parlais de Touko tout à l'heure. Donc ouais. Touko, il joue aussi dans le film. Il joue Réac, un des danseurs, et il est sur scène avec les NTM depuis qu'il a 10 ans, 12 ans, il les accompagne, etc. Il est vraiment... C'est un NTM, en fait. Et avant ce concert, donc de tournage, on a, je sais pas, 400 figurants. Le mec fait des Bercy et il remplit des limites... Enfin, il fait 3 Bercy d'un coup, donc il en a vu des spectateurs. Je l'ai vu se liquéfier avant le tournage, me dire, oh là là, j'espère que ça va être bien, j'espère qu'on va y arriver, j'espère que ça va le faire. Je dis, mais de quoi t'as peur ? T'en as fait des concerts. Et il s'est arrêté, il m'a dit, oui. Comme si je le ramenais à une réalité, il m'a dit, oui, c'est vrai. Et en même temps, on était dans autre chose et on avait juste envie d'être crédible sur ce moment-là en tant que formation à 8 de NTM des années 80-90. Quoi. C'était vraiment un challenge intéressant, mais oui, c'est non, on n'a pas du tout tourné dans l'ordre.
Il n'y avait pas de rôle pour Cut Killer, qui a déjà joué son propre rôle dans Validé. Dans La Haine aussi, on vous a vu dans La Haine.
Exactement.
Oui, mais là,
à l'époque, on ne s'aimait pas trop avec NTM.
Ah, c'est ça l'histoire.
C'est-à-dire que c'était les mecs d'en face.
Qu'on regarde d'en face.
J'étais beaucoup avec IZB, Incredibles Louis Boy, c'était le crew qui était à Saint-Ouen, donc 93 aussi. Mais non, nous, on avait nos choses à faire à nous, et on se mélangeait pas, surtout NTM se mélangeait pas non plus. Donc du coup, à l'époque, c'était très chacun de son côté.
Vous savez ce qu'ils disent, les NTM, pardon. Hein.
Non.
On est comme le FN, on se mélange pas.
C'est parfait. Ça sera le mot de la fin pour cette partie-là. Cut Killer, Audrey Estrogou, vous restez avec nous. On va parler d'Yob avec Xanto dans quelques instants, juste après le rendez-vous de Marion Guilbeault ce soir avec Kazé. Mais tout de suite, on salue les lauréats de The Artist, l'émission de Nagui sur France 2. C'est Nino Vella et Sébastien Rousselet qui forment Rockin'. Et c'est mortel.
Puis le haut ciel tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
J'ai un super toubib, un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme. Il me dit qu'il me reste 24 heures, sans ordonnance et au calme. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab, mais j'ai plus qu'un jour tout juste.
Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ.
Autour de moi dansent tous mes poteaux, pour mon dernier tour complet. Je veux tout le monde sur la photo, je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus, dans ses bras vient m'entourer. Alcool tombé comme s'il avait plu, même ma mère est bourrée.
Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
Mon ultime verre de vodka, comme dans un film de Costa Rica. Même s'il y a une âme au fond de ma viande, même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre, mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour. Fermez mes paupières, merci pour l'amour.
Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
Côté club
sur France Inter.
22h32, 48, 49, 50 secondes, l'heure de retrouver Marion Guilbeault.
Ok, d'accord, c'est une femme, mais c'est surtout une figure du rap tout court. Tant le sien est unique par sa fusion avec le rock et son projet Osgang, par son flow rageur. On l'a vu sur scène au théâtre avec Béatrice Dalle, Virginie Despentes, elle dynamite le game, elle rentre au musée même avec une carte blanche au centre Georges Pompidou. On est en plateau ce soir avec Zentone, Cult Killer, Audrey Estrogou qui a réalisé Suprême, donc ce film sur la jeunesse de NTM. Et j'ai demandé à Kazé qu'est-ce que ces initiales signifiaient pour elle.
NTM, j'avais 14 ou 15 ans, donc faut partie de la première génération de rappeurs français que j'ai écouté à Radio Nova. Je me disais surtout que voilà, ça nous ressemblait. C'était des gens qui me ressemblaient, qui étaient proches de ce que je connaissais.
Alors le rap aujourd'hui, il a gagné, hein, c'est la musique la plus populaire, la plus écoutée, la plus vendue. Ça vous fait plaisir ?
Bien sûr, vu comment il a été traité au début, oui, c'est une jolie vengeance. Je dis même pas une revanche, une vengeance.
Ah ouais, vengeance, le terme est fort. Quand vous avez commencé à rapper, Cazet, est-ce que vous imaginiez que ce serait un jour le cas, cette victoire du rap ?
J'étais loin de l'imaginer, parce que vraiment, il y avait de la contradiction partout, quoi. NTM a essuyé beaucoup les plates de la contradiction, et moi, plus jeune, à 15 ou 16 ans, on entendait partout que c'était une musique qui était vouée à n'être qu'une tendance ou à ne durer que quelques années. Ou alors que c'était pas une musique, tout simplement. Voilà. En tout cas, le rap était maltraité à son début. Très maltraité.
Alors, vous avez une carte blanche, Cazet, dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent, le 25 novembre au Centre Georges Pompidou. Vous allez bien sûr jouer avec votre projet, Osgang, hein, avec Sonny Troupé à la batterie, Marc Sens à la guitare, Manu Sando Machine. Et puis, vous avez invité également deux artistes, Cazet. Johnny Leron, dit Somnambile, c'est un artiste guadeloupéen. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Eh ben, Somnambile, c'est du gros cas. Le gros cas, c'est la musique traditionnelle de Guadeloupe. Le tambour cas, c'est le tambour des descendants d'esclaves en Guadeloupe. Nous, en Martinique, moi qui suis de la Martinique, on a le belay. Et en Guadeloupe, ils ont le cas. Donc, en première partie, il y aura un groupe de cas qui va jouer des rythmes traditionnels, que ce soit des rythmes au tambour, des rythmes à la corne de l'ambi ou le boulaguel, c'est-à-dire des rythmes qu'on fait avec la bouche.
La culture antillaise, comment elle se retrouve dans votre musique, dans votre écriture ?
Je ne sais pas comment ça transparaît, mais je sais que pour expliquer, moi j'ai l'impression que dans ce que je fais par le rap, pour expliquer ce que c'est que le racisme aujourd'hui, je convoque le passé. Voilà, donc je suis de la Martinique, les Martiniquais sont des descendants d'esclaves, les Guadeloupéens sont des descendants d'esclaves, les Réunionnais sont des descendants d'esclaves, les Guyanais, enfin dans les Outre-mer, il y a eu des histoires coloniales et des histoires d'esclavage, et je trouve que c'est important d'aller convoquer ces histoires-là pour expliquer pourquoi le racisme existe aujourd'hui.
Dans votre carte blanche, Cazet, il y a également Harry Lahache, vous aviez déjà collaboré avec lui, je crois.
Oui, Harry Lahache, il fait partie de mon collectif En Falche. Il s'appelle Prodige et il y a quelques temps, il s'est renommé Harry Lahache. Et il sort un maxi bientôt, là, début d'année. Et il le présentera lors d'une première partie à Beaubourg le 25.
Parfait. Merci beaucoup, Cazet.
Je vous en prie. Merci de m'avoir laissé m'exprimer.
C'est la moindre des choses. Allez, je rappelle, votre carte blanche, c'est au Centre Georges Pompidou le 25 novembre avec Harry Lahache, Johnny Leron. Et on se quitte avec ce titre qui exprime parfaitement l'esprit de fusion qui anime Osgang, c'est Chuck Berry.
Me demande pas si je suis à ma place, j'ai déjà brûlé la scène, te voiler la face. C'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gènes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Il faut faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne. Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Ma race a mis dans la musique sa dignité, de peur qu'on lui prenne. A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine. Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la Fender. Les anecdotes, les enfants du rock, la collection du vinyle de ton père. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines. Qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne. Moi je l'ai dans la chair et je l'ai dans les veines. Et puis qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne.
J'ai dit Jimi Hendrix et puis Chuck Berry. Jimi Hendrix et puis Chuck Berry. Jimi Hendrix et puis Chuck Berry. Jimi Hendrix et puis
Chuck Berry, c'est extrait de Gangrène, le dernier album d'Osgang avec Cazet. Ils seront en concert à Bourgoin-Jallieu le 3 décembre, à Romans-sur-Isère le 4, au Coustelet le 10, à Fort-Calquier le 11 ou à Cannes le 11, je ne sais plus, un des deux à vérifier sur notre site. Zentone, Cut Killer, Audrey, quand vous écoutez Cazet, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, c'est un parcours exemplaire pour moi, même avec les gens de la rumeur aussi.
Ouais.
Ah, c'est du conscious hip-hop comme j'apprécie. En plus, bon, le fait qu'elle soit une fille, ça, c'est encore plus fort, quoi. Enfin, j'ai pas envie de dire des gros mots, mais bon, elle a des balls, quoi.
Cat Killer, vous comprenez quand elle dit plutôt vengeance que revanche ?
Ah oui, complètement. Ah. Intègre, elle a commencé avec la rumeur, entre autres, elle a été aussi, comme NTM, dénigrée parce que les gens ne savaient pas si c'était un mec ou une meuf. Elle casait, quand elle est arrivée, elle a, entre parenthèses, défoncé le game, comme on dit chez nous, et ça a été incroyable.
Hey, check ça.
Côté.
Oh, check.
Club.
Check.
Côté club.
Wesh.
Sur France Inter.
Check.
Cat Killer, Audrey Estrogou et sont nos invités côté club ce soir avec Mathieu Bablé, le bassiste de Zanzile, Dom Peter, le batteur de High Zone. Deux titres, deux groupes plutôt emblématiques de la French Dub Touch, deux groupes qui s'associent en 2006 pour Zentone Chapter 1 ou Chapter 1, premier album. L'idée en 2006, c'était quoi ? Qu'est-ce qui vous rapprochait ? Les uns qui viennent d'Angers, les autres qui viennent de Lyon. C'était une façon de travailler le son, c'était quoi ? L'énergie que vous déployez sur dans les concerts ? Mathieu ?
C'est un esprit de franche camaraderie et d'amitié, en fait. C'est parce qu'on a partagé la même scène. En fait, la scène dub en France, elle a été est sortie un peu de nulle part. C'est une génération spontanée. On avait tous une histoire musicale avant. Mais nous, quand on a émergé d'Angers, on pensait être un peu les seuls. On a découvert qu'à Bordeaux, il y avait un groupe qui s'appelait Improvisateur Dub, qui était dans les pionniers. Et qu'à Lyon, il y avait des jeunes pousses, des jeunes gâchettes, qui étaient un petit peu plus jeunes que nous, mais qui ont émergé en même temps, qui étaient High Tone. Et en fait, on s'est retrouvés à partager la même scène avec un esprit d'émulation, mais aussi avant tout d'amitié et puis de respect.
Vous confirmez, Dom ?
Oui, c'est ça. Bah, après, on s'est croisés, je me rappelle, je crois en 98 à Thiers. Il y avait 50 personnes qui nous tournaient le dos, voulaient nous jeter des trucs. On faisait du dub, il n'y avait pas de chanteur.
C'est difficile que ça.
On a eu ces petits débuts de mouvements, de trucs. On avait pris cette option de ne pas avoir de singer et de faire du dub. Et après, il y a eu tout ce parcours de potes et d'envie, évidemment, de se retrouver en studio avec cette technique du dub à faire ensemble. On savait qu'on pouvait se partager ce truc-là, quoi.
Au départ, vous disiez que vous faisiez de la musique d'extraterrestre.
À cette époque-là, quand on s'est pointé
à ce point-là.
Avec ces projets-là, souvenir-là...
Les gens du circuit nous disaient « il n'y a pas de chant dans votre musique, Coco, t'arriveras à rien, quoi, en gros. »
C'était clair.
Et voilà, après, c'est aussi beaucoup de gens qui ne savaient même pas, quand on disait dub, c'était Kezako, alors que c'est comme une technique qui est utilisée dans la dance music, au-delà même du reggae.
C'est une technique de studio, en fait.
C'était un petit peu
c'est déconstruire,
musicophile, tu sais de quoi il retourne. Et après, c'est devenu un peu... un lieu commun, les choses ont avancé. Alors, pionnier, non, puisque je pense que ça existait déjà. Faut rendre hommage aux pionniers qui sont les Jamaïcains, les grands producteurs, King Tubby, Lee Perry, etc. Et puis toute la scène anglaise, les Yardies, Sherwood, avec le crossover avec le punk. Parce que moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que musicalement, les clans se rencontrent, en fait. Les punks, comme elle avait chanté Marley, Punky Reggae Party, quoi. Lee Perry avait produit The Clash, ça c'est quelque chose que les Anglais m'ont toujours appris. C'est il y a pas de frontières, il y a pas de genre, en fait, il y a la bonne musique et la mauvaise musique.
Vous êtes passé par les mêmes repères, Dom Peter ?
Moi les Clash, c'est plus Beastie Boys qui nous a marqué et l'utilisation de la platine, le sampler, tu te rappelles, le truc deux mots, ça met des heures à charger et il y avait cet outil là où c'était un sampleur humain, tu pouvais faire des cuts, faire des wheels, pitcher, machin, et on trouvait ça plus accessible. On avait tous nos disques de musique traditionnelle, comme de jazz, comme tout le système de loop, les premières mixettes sur lesquelles on pouvait faire des petites loops. Et High Tone est plus né dans les musiques urbaines.
Urbaines.
Rap, jungle et techno, clairement, on s'est bouffé les Spiral Tribe en 94, la jungle et tout ça, et c'est le... Ouais, c'est notre background.
Zanzile, c'est le nom d'un poète sud-africain qui avait dénoncé l'apartheid dans son temps. Ça raconte quelque chose de votre positionnement, Mathieu ?
Ouais, alors c'est un peu... c'est pas juste une posture, c'est un peu facile, mais c'est vrai qu'on a pris... on lui a piqué son nom, alors on est un peu des gros voleurs. Mais en fait, non, on a... un peu comme à ce qu'a dit Dom par rapport à iTunes, nous, en fait, on avait une cassette démo à l'époque, c'était des cassettes. Et on avait samplé son poème a cappella et on n'avait pas de nom de groupe, donc en plus on lui a piqué son nom. Après on s'est renseigné, on a pris contact avec lui puisqu'il était toujours existant, il n'y a pas eu de souci. On avait quand même déposé le nom histoire de pas se faire
bien sûr,
après.
Je peux imaginer.
Et au-delà de ça, et après le côté emblématique, sans jouer des mécaniques, c'est d'une posture un peu politique qui nous tient à cœur en fait.
La même posture politique pour High Tone, Dom Peter.
Nous, notre musique, c'est quoi ? Elle est née sur justement après une scène alternative très criarde, une scène rap aussi, voilà, avec un discours littéral très fort. Et nous, à l'inverse, pourquoi je ne sais pas, inconsciemment, on avait besoin d'une forme d'abstraction en fait dans notre musique. Donc la musique instrumentale, je pense qu'on avait peut-être besoin de place aussi pour jouer tous les quatre, tous les cinq. On aimait aussi la musique psychédélique et la liberté de la musique free. Donc en fait. Je sais pas, c'est ça, mais en tous les cas, ma réponse, c'est ça, par rapport à ce...
La raison, enfin, je rejoins là-dessus. La...
Mathieu ?
Sur le silence, le fait de dub, pas de parole, c'est aussi, c'est venu après une grande période d'alternatifs. Moi, j'ai grandi avec les Berus, j'ai kiffé, je les ai vus en concert. Après, je pense que le pendant de ça, NTM, justement, est super fort au niveau politique. C'est des gens aussi qui défendent quelque chose, qui ont une légitimité, que ce soit même le reggae. Moi, après, j'ai kiffé Nirvana. Cobain, il réussit, il se flingue. Wow, c'est un peu négatif comme message. Donc, je voulais quelque chose de, on voulait, notre génération, quelque chose de plus positif, en fait. Et sans le côté, on a dit, oui, bon, bah, est-ce que la musique peut changer le monde? Avant tout, on va laisser les gens tranquilles et pas les...
Et pas de discours. Donc, voilà. Pas de parole pour les deux. On va revenir sur cette dimension, justement, politique. Et pour autant, dans ce nouvel album qui célèbre vos retrouvailles, on va écouter tout de suite Dub Revolution. De quoi est-il question dans ce titre qui est chanté? Ce n'était pas du tout le cas pour le premier chapitre, par Nazamba.
Et ben, il dit que c'est un peu ce qu'on a raconté avant, que cette musique est née sur ce petit caillou qui s'appelle la Jamaïque et qu'au final, elle a changé quand même toute la phase de la musique, la phase de la musique sur le XXe siècle. Quoi. C'est assez fort. Quoi. Le reggae, le dub, c'est quand même pas rien.
Mais cette fois-ci, il a fallu des paroles.
Yeah. Acho. It's a dub revolution. Come make me tell you musical education. Achoo, it's a dub revolution. Come make me tell you musical education. Yeah. Lean paradigm start from scratch, yeah. And the kappa papa tapa tapa tap. King Toby have the whole place lock. And from them the time that the dub never stop, yeah. From Jamaica the dub island, yeah. We send the dub across every nation. So them play it on them sound and them radio station. So I and I make a little contribution. In the dub revolution. Right here now it is a music education. How we miss it? Musical education, yeah. Speaker kick a missile like wild bull. Nobody not sleep, dance all full. The people get selector, him fi all and pull. All and pull, selector, big tune, yeah. Selector confidence, cause him dub the man no fake. And when him play him dub, then the whole place a shake. So watch it, make him drop another dig. Dub plate, dub revolution. Come make me tell you musical education. A true galang, dub revolution. Come make me tell you musical education. Give them dub, if I dub them want. Place a D, make a DJ chant. Good music, make the people them rock. Give them music, make them rock non-stop. Rock, them a move them feet. Good music, make them feel so sweet. Yes, I just the dub, you know. Yeah. Dub revolution. Come make me tell you musical education. Yeah. Dub revolution. Yes, let me tell you musical education. Called dub revolution. Yeah, taking dub music from this little island and spread it all over the world. Yeah, dub revolution.
Thank you. Dub Revolution avec la voix de Nazamba, ça vous rappelle quelque chose cette voix, Audrey?
Ouais,
c'est dingue, on dirait John Star.
Oui, il y a un air de famille.
Exactement, alors là c'est l'extrait de Zentone Chapter 2, c'est la version iTone, mais il existe aussi la version Zenzile.
This one is called Dub Revolution. Taking Dub music from this little island and spread it all over the world. Just dub, 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 dub.
En fait, oui, vous expliquiez à Audrey qui s'inquiétait, mais qu'est-ce que c'est que cette même chose? C'est à la fois la même chose et c'est pas pareil. Oui, vous avez enregistré chacun, vous aviez la même matrice et chacun a fait son propre
mix.
Exactement. Voilà. Comment vous définiriez chacun l'univers sonore de l'autre? Par exemple, Dom, comment vous signifieriez l'univers de Zenzile?
Le travail de Zenzile, comme je l'ai vu évoluer sur la longueur, à travers les lives, à travers le studio, c'est la recherche de l'épure, quoi. C'est le plus dur au final, de pas être bavard, d'être authentique, sincère, sans trop en faire. Pour moi, en tous les cas, en termes d'esthétique musicale, c'est quelque chose qui me parle. Et je sais, quoi, il me semble qu'en tous les cas, ça a été leur travail, quoi. Et c'est ça qui me plaît.
Mathieu, pour identifier la sonorité, notamment sur cet album, du travail d'iTone.
Ce qui est remarquable, c'est que surtout, ils ont essayé de boucler la boucle d'un cycle, c'est qu'ils étaient amenés à une histoire plus pétrie d'électronique. Ils sont partis sur des choses plus analogiques, et là, ils sont revenus un peu à un retour aux sources. Donc voilà, je pense que ce projet, il a servi aussi à ça, en fait. On a contribué les uns et les autres à se ressourcer, en fait.
Aujourd'hui, donc, Chapter 2, l'album compte des instrumentaux, qui est l'ADN de vos deux groupes, extrait. Ça pour le ouhou que j'adore.
C'est
Mathieu.
C'est qu'on tribute tout Sly Robbie, quoi.
Exactement. Oui, la signature même chez Gainsbourg. Exactement. Mmh, c'est vraiment ça qu'on entend des codes qui viennent. J'ai vu que ça c'est aussi une sorte de capsule sonore comme
ça. Complètement. Parce que en fait, quand tu analyses bien d'une certaine manière, les gens sont à l'électro, en techno, ils sont là dans une vibe. Là, c'est la même chose. C'est un morceau techno pour nous.
Bien sûr.
C'est notre vibe à nous et on le ressent de manière, ça nous transcende. Alors qu'on n'a pas besoin d'avoir une dynamique BPM accélérée.
Sur la trance surtout.
Sur la trance,
une musique black, en fait, avec cette pulsation.
Donc, des instrumentaux, ça, on est habitué. Mais donc, pour la première fois, je le disais, des voix, il y a Nejai, il y a Rob Taylor, et puis il y a Jolie Joseph sur Désobey.
When nails are written in the blood, uprising is a duty. Don't let them go back to work. Revolution is a must. Disobey. Time to follow your heart. Disobey. Do what the kitchen says you do.
Chapter 1. Pas de voix, chapter 2, des voix. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer pour accepter des voix qui arrivent? C'est pas la première fois que vous travaillez d'ailleurs avec des voix.
Non, Zenzile, ils ont travaillé avec beaucoup de singers. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il me semble qu'à un moment, les morceaux, on les aimait. En fait, donc, la technique du dub, c'est une histoire de déconstruction de titres. Et je crois qu'à ce moment-là, là, quand on était enfermé en studio au mois de mars, on a aimé les versions dans cet état-là, on n'a pas eu envie d'aller plus loin dans le travail du dub et on a eu envie de les proposer à d'autres en se disant peut-être naïvement ça pourrait plaire à un chanteur, quoi. Et effectivement, on a lancé des perches comme ça en se disant il y en a un ou deux et les quatre étaient terribles, donc on a pris un malin plaisir à garder les quatre et à les dubber derrière.
De prendre la force brute du morceau, en fait, de l'inspiration, comme une compo basique, sans penser à la surproduire, en se disant peut-être que la seule chose qui manque pour la magnifier, c'est une voix, en fait. Ce qui est le principe de base, en fait.
Audrey, comment vous écoutez ce projet, vous qui avez mis pendant plus d'un an, pendant combien de temps vous avez mis pour faire ce film?
Ah non, en tout, c'est 5 ans de ma vie.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc, du rap, du hip-hop pendant 5 ans de votre vie, comment vous écoutez aujourd'hui ce son?
Mais moi, ça me donne envie de partir en vacances.
Oh voilà.
Bah, au bout de 5 ans de travail,
non, non, je peux travail, on peut vous comprendre.
Et de pas écouter de musique aussi.
Aussi, ouais. Ouais. Bah, mais non, mais ça me donne envie de partir en vacances. Bah, quand on entend ça, on voit. Ouais, on pense, oui, ça, Jamaïque, Caraïbes, on est plus là, quoi.
Quand vous ne vouliez pas de chanteur, c'était parce que vous ne vouliez pas avoir affaire à l'ego, vous savez, d'un chanteur. C'était ça aussi, celui qui capte la lumière, qui capte même la voix et qui cache la musique.
Ça, alors, ça va glisser, là.
Ouais. C'est ça. Moi, j'ai une petite private joke, c'est qu'en fait, j'ai fait des projets avec. Un chanteur notamment qu'on a vite surnommé le chianteur.
Tu vois. Ah oui, d'accord. Bon,
donc, ouais. Non, mais après, c'est des histoires d'ego. Ouais, je pense que si on veut aller au bout d'un processus musical quand on est musicien, à un moment, on s'est aussi dit, après, on a d'autres racines, hein, comme le Floyd, etc. C'est que c'est une question d'espace, quoi, que le chant, c'est très important, mais ça peut prendre aussi beaucoup de place et qu'on peut emmener la musique ailleurs, en fait.
Eh bien, tout de suite, on part ailleurs, on se quitte sur un titre ambivalent, I Love You, I Hate You. C'est l'histoire d'un abandon, raconte Little Sims. Comment un traumatisme peut nous affecter dans notre vie d'adulte s'il n'est jamais affronté. Une histoire universelle, dit-il, à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. La chanson est accompagnée d'un court-métrage visible sur la page de Côté Club.
So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never fazed by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made the promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you got to find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? Mission you live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know.
Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes
I love you, I hate you, album détesté, Little Sims, au féminin bien sûr, tout le monde m'aura corrigé. Voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mathieu Bablé et merci Dom Peter.
Merci.
Zentone, c'est le nouvel album Chapter 2 avec un concert le 1er juin 2022 à l'Élysée Montmartre à Paris. Merci Audrey.
Merci
Code Killer.
Merci.
Le film suprême sort demain et Code Killer, je signale que vous serez le héros de la Radio 2 samedi prochain à 21h sur France Inter. Marion ?
Carte blanche à Cazet, c'est à Beaubourg et c'est le 25 novembre.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
Ça suffit ! Pendant des années, à chaque fois que tu me voyais, tu me regardais avec l'air de dire que ma vie t'avait un goût. Et maintenant, tu t'habilles en arbre de Noël pour t'indiner avec moi, pour avoir des nouvelles. Et ben, ça marche pas. Faut trouver autre chose.
On va essayer de trouver autre chose demain pour recevoir Eddie Mitchell. À ses côtés, le critique gastronomique François Simon sur les traces de Yoko Ono et de John Lennon au Japon. Marion ?
Moi, je prendrai la direction de Rennes et de son festival culte, les Transmusicales, en trois sons.
Côté club, c'est plus qu'une équipe, c'est un collectif. Stéphane Guenec à la réalisation, à la technique. Ce soir, Florent Layani et Laurent Baudouin. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Margot Terre, ça c'est pour la programmation. Et Valentine Chaudebois aux playlists. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.